RTL Info.
Sarah Massy.
Bonjour, Festineuch a connu hier une journée sold out. Des milliers de festivaliers ont foulé le site des Jeunes Rives à Neuchâtel. Des concerts aux tendances musicales diamétralement opposées étaient à l'affiche. Le Centre Nature La Sauge propose un week-end totalement dédié à la découverte de la biodiversité. Une quinzaine de naturalistes experts recensent les espèces d'animaux, de plantes et de champignons qui vivent à La Sauge en présence du public. Suisse-Brésil, 7 à 20h. Battre les Brésiliens constituerait un exploit retentissant, mais joueurs et staff helvétiques tiennent le même discours. La victoire est inutile si elle est sans lendemain, comme en 2010 après le succès face à l'Espagne. Soleil, nuages et quelques averses au menu du jour. Les températures sont de saison. La musique continue de résonner sur les Jeunes Rives à Neuchâtel. Festineuch s'apprête à vivre sa dernière soirée avec notamment à l'affiche Mortiba, Catherine Ringer ou encore la compagnie Créole. Hier, la 18e édition du festival a connu son unique soirée sold out. Les festivaliers ont profité des concerts d'Imani ou encore de Big Flo et Oli. Et notre journaliste Alizée Lichtin nous propose une critique de deux autres prestations au style antinomique.
Il faut croire que les Neuchâtelois ont le gène du reggae, Junior Chaka, les Moonrisers, c'est surtout un public fanatique de rythme jamaïcain. Cela tombait parfaitement puisqu'un reggae insolite et distillé sans retenue a envahi les Jeunes Rives de Neuchâtel. Les Moonrisers ont signé hier un comeback gagnant. Le groupe, connu notamment grâce à son titre Rise Up, s'était séparé en 2011, laissant derrière lui de nombreuses interrogations et déceptions. Souhaitant aujourd'hui véhiculer une image plus écologiste et respectueuse de la planète, les Neuchâtelois ont fait planer sans substance le public de la scène lacustre. Pas facile de mettre l'ambiance en début de soirée. Heureusement, ils étaient à la maison. Ils jouaient sur leur pelouse. Pour sûr, Festineuch s'est transformé en Babylone, la terre promise de tous les fans de reggae.
Je les aime tous comme moi-même.
Un peu plus tard, ce ne sont pas les filles du bord de mer, mais bien celles du bord du lac qui se sont réunies pour Arnaud, le chanteur belge à la voix brisée, a hypnotisé le chapiteau. Pourtant, le discours d'entrée était minimaliste. Merci pour avoir payé, c'est tout ce qu'il aura dit à son public en guise d'accueil. Texte profond, voire même poétique, allure rock'n'roll et décoiffée. Arnaud a livré une prestation extraterrestre mais soignée. Comme à son habitude, il n'a pas mâché ses mots, s'autorisant un petit motherfucker qui a ravi le public neuchâtelois. Au fur et à mesure de la prestation, le chapiteau s'est rempli jusqu'à ce qu'on ne voit presque plus ce petit monsieur aux cheveux gris ébouriffés. L'éclectisme des frites aux dreadlocks de Arnaud aux Moonrisers, voilà la formule magique d'une soirée sold out à Festineuch. Et pour un concert qui rassemble toutes les générations dans une ambiance d'apothéose, convoquer Big Flo et Oli, vous étiez partis avant, dommage.
On a tous dit assez dommage, c'était la dernière fois.
Et des photos de cette 18e édition de Festineuch sont à voir sur rtn.ch. Le festival se tient encore aujourd'hui sur les Jeunes Rives. Week-end dédié à la découverte de la biodiversité à La Sauge. Une quinzaine de naturalistes experts recensent les espèces d'animaux, de plantes et de champignons vivant à La Sauge. Tout cela en présence du public. L'idée, c'est de faire prendre conscience à la population de l'importance de la biodiversité. Et de ce côté-là, La Sauge est très gâtée. Anna-Lisa Maschiti, directrice du Centre Nature.
La Sauge, elle est très gâtée du point de vue ornithologique. Nous avons recensé les 18 dernières années plus que 200 espèces, en allant de la foot mackerel, qui est une espèce très commune, jusqu'au martin pêcheur, qui est une espèce rare et en danger en Suisse, qui peut être observée depuis nos observatoires à quelques mètres de près. Ensuite, nous avons une quantité énorme de plantes, donc la flore, elle est très très riche. Et nous allons aussi présenter les nombreuses libellules, les papillons, des gastéropodes, donc c'est les petits escargots terrestres que personne ne voit généralement, et encore donc champignons, faune du sol, micro-mammifères et tas d'autres espèces en cours.
Vous avez l'impression qu'on n'est pas assez sensibilisé ou que la biodiversité est en danger, pourtant il me semble qu'on en parle toujours plus.
Oui, effectivement, on n'est pas très sensibilisé à ça. Heureusement, dans les dernières années, grâce aux études et aux actions des ONG comme la nôtre, le public devient de plus en plus conscient, mais on est encore loin d'avoir tout compris. Donc il faut vraiment insister et communiquer à tout le monde que cette biodiversité, elle est là, mais elle se porte très mal en Suisse. Et du coup, il faut vraiment agir pour la préserver.
Vous dites qu'elle se porte très mal en Suisse, ça veut dire que dans d'autres pays, on fait plus d'efforts ?
Oui, effectivement, nous ne sommes pas le phare dans cette matière. C'est vrai qu'il y a des actions qui se font et j'encourage vivement à continuer dans cette direction-là. Mais il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus en avant par rapport à nous.
En plus des rencontres avec les naturalistes, le Centre Nature organise de multiples animations pour les enfants jusqu'à 18h. Ce week-end est bilingue, français-allemand, et vous retrouvez toutes les informations sur ces activités sur rtn.ch. La formule cas ouverte s'invite au Val de Travers, mais elle s'appelle Absinthe en fait. Et ce ne sont pas les vignerons qui accueillent les visiteurs, mais les distillateurs. La première édition s'est tenue hier, elle remplace la fête de l'absinthe à Bellevresse. Elle a permis au public de visiter plusieurs distilleries du Vallon, ainsi que la maison de l'absinthe à Mottier et le séchoir à absinthe à Bellevresse. Reportage à la distillerie Lavalotte Martin à Bellevresse, où nous avons rencontré Alain.
Elles ont toutes leurs spécificités, mais elles sont toutes bonnes.
Ouais. Vous arrivez à expliquer ces spécificités ou c'est difficile ?
Il y a des absinthes qui seront un peu plus amères, il y en a qui seront un petit peu plus douces. Ça dépend si elles ont aussi un peu plus de réglisse ou pas. Et après, moi, j'aime bien un petit peu celles qui sont en mer.
La fête de l'absinthe, avant, à Bellevresse, où tout était condensé, maintenant, cette nouvelle formule, qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, il y a des avantages et des avantages, mais comme aujourd'hui, il fait beau, c'est du pur bonheur de se balader et puis de faire autre chose. Et puis, finalement, le changement, c'est pas si mal, quoi. Ça peut amener une autre dynamique, c'est bien.
Vous vous appelez comment ?
Je m'appelle Arlette.
Et là, c'est la première distillerie que vous faites ?
Alors, c'est la première distillerie que je fais aujourd'hui, parce que j'en ai déjà fait bien avant.
Qu'est-ce qui vous plaît dans l'absinthe ?
Alors, je vais sûrement vous surprendre, je ne bois pas d'alcool, mais ça n'empêche que je trouve l'histoire de l'absinthe intéressante et fascinante. Donc voilà, je veux dire, l'intérêt pour moi, c'est l'histoire qu'elle a eue, dans le fait d'avoir été autorisée, dans un premier temps, interdite, distillée frauduleusement, et puis de nouveau qu'on ait le droit d'en reboire pour ceux qui en veulent.
Essayez votre verte, pourquoi pas ? Oui, volontiers.
Pierre-Éric, vous avez choisi quelle absinthe et vous êtes laissé conseiller ou vous aviez une idée en tête ?
Alors, j'ai demandé des conseils, bien sûr, au producteur. Et puis, il m'a parlé d'une absinthe verte, douce. Donc, je vais essayer ça.
Les cultivateurs et d'autres artisans étaient aussi de la partie. Le rapport sur le développement durable élaboré depuis 2 ans par l'administration fédérale aurait été raccourci et modifié sous la pression du conseiller fédéral Ignacio Cassis. L'information est relatée dans Le Matin Dimanche qui cite plusieurs sources. Selon elle, le ministre des Affaires étrangères aurait qualifié le texte de trop à gauche et trop critique. Les trains longue distance pourront à nouveau circuler en gare de Winterthur. Elle était en grande partie fermée au trafic depuis vendredi à la suite du déraillement d'un convoi de chantier. Un pylône a été endommagé, ce qui a provoqué un court-circuit. Les ministres grecs et macédoniens des Affaires étrangères ont signé un accord historique pour rebaptiser l'ex-république yougoslave de Macédoine en Macédoine du Nord, ce qui lui ouvre la voie vers l'Union européenne et l'OTAN. Côté macédonien, il doit encore être ratifié par le Parlement, approuvé par référendum et acté par une révision constitutionnelle. Il sera ensuite soumis à la ratification du Parlement grec. Ce règlement met fin à une querelle longue de 27 ans. L'Aquarius est arrivé dans le port espagnol de Valence. Avant lui, 2 autres navires appartenant au même convoi ont accosté dans le port espagnol. À eux trois, ils transportaient 630 migrants, dont 123 mineurs non accompagnés, tous récupérés au large des côtes libyennes. L'Italie avait refusé d'ouvrir ses ports aux navires dimanche dernier, créant de vives tensions sur la politique migratoire en Europe. La chancelière allemande Angela Merkel veut d'ailleurs organiser une réunion avec certains États européens pour discuter de la crise migratoire avant le Conseil des 28 et 29 juin, selon le journal allemand Bild. Elle veut notamment discuter avec la Grèce, l'Italie et l'Autriche. L'exécutif autrichien a demandé hier à l'Allemagne des explications après de nouvelles allégations visant les services secrets allemands. Ils sont accusés, selon des informations de presse, d'avoir espionné un grand nombre d'institutions et d'entreprises en Autriche, dont des ambassades et des organisations internationales. La première ministre britannique Theresa May a promis d'injecter des milliards de livres en plus dans le service de santé en crise. Elle compte notamment sur les économies réalisées avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Le magazine.
Et une page magazine dédiée au rendez-vous sportif, peut-être le plus attendu de l'année en Suisse. On en parle avec vous, Marcel Neunschwander. Bonjour.
Bonjour. Oui, c'est le grand soir. La Suisse entame la Coupe du monde de football à 20h face au Brésil. On connaît les arguments de la formation de Vladimir Petkovic pour éventuellement battre le quintuple champion du monde. Rigueur défensive, très bonne organisation, solidarité aussi. On peut se demander, évidemment, si cela suffira pour contrer Neymar et ses coéquipiers. Au demeurant, dans quelles dispositions le Brésil aborde-t-il la compétition? Les Brésiliens avaient subi un terrible camouflet il y a 4 ans devant leur public. Ils avaient été éliminés, on s'en souvient, par l'Allemagne en demi-finale, écrasés, humiliés aussi sur le score de 7-1. L'engagement d'un nouvel entraîneur, il y a 2 ans, Adenor Leonardo Bacchi, dit Tite, vise à éviter de connaître une aventure similaire. Le bonhomme est plutôt connu pour sa rigueur. Ancien joueur brésilien de Sochaux, Matheus Vivion, a eu l'occasion de côtoyer l'environnement de Tite. Il en parle dans notre page magazine au micro de Jérémy Pignard.
Ce sont des professionnels qui sont au détail près, qui sont des bosseurs, qui ont inculqué une culture qu'on n'avait pas dans les équipes du Brésil avant, ou qu'on avait beaucoup moins en tout cas. Et ils ont construit au long de toute cette période-là, qui sont là depuis 3-4 ans, une culture sélection, une culture d'équipe quelque part. Et c'est pas un hasard aujourd'hui. Le Brésil a toujours eu des bons défenseurs, mais aujourd'hui on a vraiment une équipe qui est formatée pour gagner, qui est formatée pour jouer ensemble et qui s'y connaît très bien. Aussi, je pense que les dernier résultat aujourd'hui, cette espèce de mise en difficulté que le Brésil a eu, notamment avec le fiasco de la Coupe du Monde, donne ce sentiment aussi de revanchard qui peut-être a manqué ces dernières années pour cette équipe.
Il y a encore un traumatisme Allemagne-Brésil de 2014, c'est encore là dans la tête des Brésiliens?
Ah, c'est sûr, ça on ne peut pas nier. J'y étais, il est encore présent, on dirait que c'était hier. Le Brésil, il est marqué par ce fait-là. Et la preuve, c'est quand on voit la Copa América un an plus tard, que le Brésil n'arrive pas à passer les quarts de finale contre le Paraguay, des choses qui n'ont jamais arrivé. On a senti vraiment que ça a profondément marqué l'équipe du Brésil et les joueurs même. Et je pense que le travail des Tite, il était notamment axé sur ça, comme je disais, de retrouver cette confiance, déjà une confiance personnelle de chaque joueur, mais aussi une confiance d'équipe. On est quand même le Brésil, on a la qualité qu'il faut pour dominer, pour imposer notre jeu. Ça reste quand même l'attente, la petite incertitude que tous les Brésiliens ils ont aujourd'hui, c'est de se dire comment cette équipe elle va se comporter, notamment dans ce premier match. Parce que c'est là où on va peut-être les remettre dans les mêmes conditions, dans le contexte qu'on a malheureusement vu il y a 4 ans.
Quand on parle du Brésil, tout le monde parle de Neymar. Pour vous, Matheus, c'est l'extraterrestre de cette équipe, celui qui peut effectivement, par moment, complètement mettre la folie, ou alors, au contraire, avec ses nouveaux sélectionneurs aussi, c'est un joueur qu'on fait rentrer dans le moule parce qu'on ne veut plus au Brésil d'un seul joueur qui fait un petit peu ce qu'il veut sur le terrain.
Je suis vraiment toujours été un joueur de groupe. Et après, sincèrement, Neymar, c'est un extraterrestre. C'est tout simplement trop fort. Encore, il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec des joueurs qui ont joué contre lui cette saison et qui ont le côtoyé. On discutait avec des amis que j'ai à Paris et qui disent à chaque jour, c'est simplement impressionnant, c'est hors norme, c'est au-dessus de tout. Donc, c'est vrai que c'est un privilège. Après, ça reste en danger pour l'équipe de uniquement se reposer sur lui et de jouer en fonction pour lui seulement. Cet équilibre-là, il faut le trouver. Je pense que c'est aussi un défi pour Tite de savoir gérer ce genre de situation, de concerner Neymar aussi pour l'équipe, qui lui aussi, il a des ambitions et des objectifs collectifs. Mais bon, quand on voit quand même la qualité de tous les joueurs comme Coutinho, William, Gabriel Jesus, sans parler de tous les autres, je pense quand même que c'est des joueurs qui ont déjà assez d'expérience aussi pour prendre en main des situations compliquées et de savoir gérer un peu l'effet Neymar.
Ayrton, il est 12h29.
Sport. De l'athlétisme dans le point sport, Alex Wilson affiche la forme actuellement. Le sprinter balois établit un nouveau record de Suisse sur 200 mètres en 20 secondes 26 hier à Berne. Il a amélioré de 3 centièmes la marque qu'il avait établie 2 semaines plus tôt. Alex Wilson sera en principe présent lors du 39e Résisprint international le 1er juillet à La Chaux-de-Fonds. Il reste moins de 3 heures de course aux 24 heures du Mans automobile. Associé à Fernando Alonso et Kazuki Nakajima, Sébastien Buemi occupe toujours la tête du classement. Le Biennois Neil Yanni est quatrième, alors que le pilote neuchâtelois Jonathan Hirschi et ses coéquipiers ont encore grappillé des rangs, ils sont septièmes.
Merci Marcel, Noël Schwander et Sarah Massi. Marcel, vous restez avec nous. On va évidemment parler football.
De la Coupe du Monde de football avec Anser et son Passe Liberté. Remontée mécanique, bain et carte postale offert cet été. Anser.ch.
Évidemment, Marcel Schwander, vous vous attendez à ma question. Un petit pronostic ce soir pour Suisse-Brésil.
Évidemment qu'on va gagner comme ça. Au cas où on perdrait, moi au moins j'y aurais cru. Quoi.
Voilà, c'est exactement ça. On parle évidemment football, Coupe du Monde. La Suisse qui arrive donc en lice, on l'a entendu il y a quelques minutes.
Oui, effectivement. Tout à l'heure, on a évoqué dans la page magazine le cas du Brésil. Parlons quand même de la Suisse pour ce match qui débute à 20h. L'équipe de Vladimir Petkovic fait figure de petit poussé. Hein, c'est vrai, face au quintuple champion du monde. Le défi est de taille insurmontable. La question se pose évidemment. En réalité, sur un match, tous les scénarios sont possibles. Stefan Gritschink en est persuadé. L'ancien international valaisan faisait partie de l'équipe helvétique qui avait battu l'Espagne 1-0, alors tenant du titre en ouverture du Mondial 2010. Mais la Suisse avait été moins brillante lors des deux matchs suivants. Elle n'était pas parvenue à se qualifier pour les huitièmes de finale. Une leçon à retenir, selon Stefan Gritschink.
S'il devait avoir un résultat positif, qui serait déjà un bon match nul, de tirer les enseignements et puis pas de se mettre cette pression négative qu'on est. Et puis médiatique aussi, parce que je me rappelle d'avoir eu une pression énorme à la sortie du match contre l'Espagne, où on était sollicité de partout. On nous voyait déjà arriver en quart de finale, on nous voyait déjà ci, on nous voyait déjà ça. Puis c'est un exploit qu'on a réussi, bien sûr, on ne peut pas nous enlever, mais à partir de là, il y a eu peut-être une petite déconcentration, et puis ce qui nous avait permis justement d'être performants, on a fait peut-être tous un tout petit peu moins, et puis on s'est tous peut-être cru un petit peu déjà trop beau, où certaines personnes nous ont fait croire qu'on était un petit peu trop beau, et puis dans le football, le couperet tombe rapidement. Donc c'est vraiment de tirer vraiment les enseignements rapidement après le Brésil, que ça soit positif ou négatif, et puis de pas se louper contre la Serbie, parce que ça sera vraiment là que ça se joue la qualification.
En réalité, les discours sont tous identiques. C'est peut-être pour évacuer la pression de ce premier match, avec aussi le fait de pouvoir réaliser un exploit retentissant. Battre le Brésil, donc. Gelson Fernandez, lui aussi, se remémore de la campagne 2010 et ce succès initial contre l'Espagne, succès finalement inutile.
Ça veut dire qu'après le premier match, c'est pas fini. On se sert de cela parce qu'en cas de résultat positif ou de résultat négatif, ce n'est pas fini. Et ça, c'est la grande leçon de 2010.
Gelson, on voit souvent la Suisse ne perd pas, voire même qui gagne ses premiers matchs, mais on la voit aussi souvent assez nerveuse. Le premier match, c'est très, très particulier.
Oui, mais ça ne vaut pas que pour la Suisse, ça vaut pour toutes les équipes. Tant que tu ne rentres pas dans la compétition, tu ne peux pas savoir où tu en es. Et je crois que nous, on a beau faire toutes les statistiques du monde sur nos 4 dernières années ou 2 dernières années. Après le match, on peut dire « Ah ouais, maintenant ils sont là ». Mais pour dire maintenant « Ouais, on est là », on ne peut pas savoir. Aucune des équipes ne sait.
Au terme d'une longue préparation tout de même, l'équipe de Suisse attend bien évidemment ce rendez-vous face au Brésil de ce soir avec beaucoup d'impatience et aussi avec sérénité. Le portier Yann Sommer sait qu'il pourrait avoir un rôle prépondérant à jouer dans ce genre de rencontre. Il dit surtout se réjouir d'affronter les quintuples champions du monde.
C'est un grand challenge pour nous, le premier match dans un groupe. C'est un match très important de commencer un groupe. Je pense qu'on doit jouer avec beaucoup de courage, avec beaucoup de la confiance et avec la joie. C'est une situation super bien de jouer une Coupe du Monde. Premier match contre le Brésil, de commencer un groupe comme ça, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont mieux.
À premier match, il y a toujours beaucoup de pression. On se rappelle au Brésil, il y a beaucoup de pression dans ce match contre l'Équateur, contre l'Albanie aussi. C'est un match un peu spécial aussi. Un premier match, c'est dur quand même de rester calme, de repousser la pression.
Ouais, c'est toujours comme ça parce que tu commences un tournoi, tu ne sais pas encore si ça joue ou pas dans les matchs. C'est normal, c'est normal. La nervosité, c'est toujours un petit peu plus grand que les prochains matchs après, quand tu sais comment ça se passe et tout. Mais moi, je suis content comme ça se passe et on se réjouit. Tu vois que l'équipe est bien, on se réjouit beaucoup pour ce tournoi et puis moi, je n'ai pas de soucis.
Des propos recueillis par notre confrère de la RTS, Bernardin Alemann. L'équipe de Suisse évoluera en principe dans la composition suivante. Sommer défendra les buts. La charnière centrale se composera de Cher et Akanji. Lichtsteiner défendra le côté droit et Rodriguez le gauche. Au milieu du terrain, on retrouvera Berami et Chaka. Ainsi, composition plus avancée de droite à gauche, Shakiri, Djemaili et Tsuber. Seferovic occupera, lui, la pointe de l'attaque. Suisse-Brésil, c'est donc à 20h. Mais on n'oubliera pas que deux autres matchs ont encore lieu aujourd'hui. Avant le Suisse-Brésil, donc, la Serbie et le Costa Rica ouvriront les feux du groupe E à 14h. Les champions du monde en titre feront aussi leur entrée en lice aujourd'hui. L'Allemagne affronte en effet le Mexique sur le coup de 17h.
Et qu'on termine sur Hop Suisse, Marcel.
Absolument, Hop Suisse, sortez les drapeaux.
Le journal de la Coupe du Monde de football.
Le journal de la Coupe du Monde.
Évidemment, on vous tiendra au courant sur rtn.ch de tous les résultats sportifs. On jette un petit coup d'œil du côté de la météo. Pour ce dimanche, eh bien, les spécialistes de Météo News nous annoncent l'arrivée d'une petite perturbation qui pourrait nous lâcher quelques gouttes sur les crêtes. Quelques ondées possibles, donc ça sera très ponctuel avec des quantités qui seront minimes. Sinon, à part ça, eh bien, soleil pour tout le monde. Au meilleur de la journée, 24 degrés autour du lac et 16 à 17 degrés pour les hauteurs. Demain lundi, quelques bandes grisailles seront présentes. Ça va rapidement se muer en beau temps avec des cumulus. Autrement, le temps, eh bien, sera bien ensoleillé avec une bise qui va se lever légèrement. Les températures, elles seront toujours agréables pour la journée de lundi. On atteindra la barre des 28 degrés pour la plaine à partir de jeudi. Une belle semaine donc qui s'annonce.